Backstage Podcast, ce sont Margot Delpierre, qui est journaliste radio, et Thomas Longlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Aujourd'hui, premier épisode de l'entretien avec Sabine Vespizer, patronne des éditions du même nom, au micro de Margot Delpierre sur un montage et mixage de Thomas Longlin. Un entretien enregistré en novembre 2020.
Si je vous dis éditeur, vous imaginez sûrement quelqu'un plongé dans les manuscrits toute la journée. Une vision romantique et plutôt fausse du métier, même s'il faut de l'amour pour les livres, pour les auteurs et quelques idéaux pour oser se lancer dans le monde fragile et difficile de l'édition. Notre invitée a osé quitter Actes Sud où elle travaillait depuis plusieurs années pour lancer sa propre maison au début des années 2000. Elle ne publie qu'une dizaine de nouveaux titres par an, préférant rester petite et proche de ses auteurs, comme Léonore de Recondo, Diane Meur, Yannick Lahens, entre autres. Enfin petite, pas tant que ça, car depuis 20 ans, la maison qui ne publie que de la fiction a gagné de nombreuses récompenses et la reconnaissance de ses pairs. Comment savoir si un manuscrit mérite d'être publié? Y a-t-il une bonne façon de dire non à un auteur? Comment gérer ses finances quand on ne peut pas vraiment prévoir le succès d'un livre? Et comment concevoir un livre à son image? Sabine Vespizer, patronne des éditions du même nom, nous raconte l'envers du décor. Bonjour Sabine.
Bonjour Margot.
On a beaucoup parlé des livres et des librairies récemment. Faut-il ouvrir les librairies, les fermer?
Oui.
Alors qu'un deuxième confinement a été décrété pour freiner l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et qu'est-ce que ça représente pour vous, une librairie?
Je pense bien entendu qu'il est vital, impératif d'ouvrir les librairies. Je ne comprends pas pourquoi elles ont été fermées. Depuis la fin du premier confinement, aucun cluster n'a été décelé en librairie. Pour autant, pendant le premier confinement, les libraires n'étaient pas équipés, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, c'eût été absolument dangereux que d'ouvrir les librairies. Ils ont fait la preuve éclatante qu'ils savaient respecter les normes sanitaires, les protocoles, et qu'il n'y avait pas de contamination dans leurs lieux de vente, qui sont aussi des lieux de vie. Et le retour massif des lecteurs en librairie a aussi été la preuve éclatante de cette nécessité que nous éprouvons tous, de pouvoir avoir accès à ces biens culturels que sont les livres. Enfin, vous me posiez la question de mon rapport à la librairie. Mon rapport à la librairie, il est totalement essentiel. J'ai un peu de mal à comprendre ce gouvernement qui s'arroge le droit de décider ce qui est essentiel ou ce qui ne l'est pas. En tout cas, pour ce qui est de la vie de ma propre maison d'édition, la librairie est essentielle pour une raison simple. L'économie de ma maison repose sur une phrase. Un lecteur va en librairie pour trouver ce qu'il ne cherche pas. Je fais de l'édition dite de création. Je publie des livres silencieux, des livres à bas bruit, des livres dont on ne connaît par définition souvent pas les auteurs, parce que souvent c'est de la découverte et des premiers romans. Et ces livres-là ont impérativement besoin de relais. Le relais, ce sont les conseils des libraires. C'est les étoiles dans les yeux du jeune ou de la jeune libraire qui a lu Dima Abdallah, premier roman d'une jeune femme libanaise paru chez moi à la fin du mois d'août, et qui, bien que n'étant pas libanaise, y a absolument retrouvé tout un rapport à sa propre histoire, à son père, à son pays, et qui s'est identifié dans le livre de Dima Abdallah. Et je parle là d'un auteur méconnu, mais un auteur plus connu comme Diane Meur, que je publie depuis 20 ans, dont j'ai publié le premier roman en 2002, a tout autant besoin de cet engagement permanent des libraires et de ce qu'on appelle ce bouche à oreille. Donc l'ouverture des librairies, c'est aussi, par-delà ce que je dis du supplément d'âme, de l'échange humain aussi, c'est aussi assurer une vie économique à tout un pan de l'édition française qui a impérativement besoin de ce conseil. Et donc c'est assurer une vie économique à la diversité. C'est ne pas sombrer dans cette polarisation du marché qui nous apporte l'industrie à grand fracas, qui fait que même librairie ouverte, nous avons beaucoup plus de mal aujourd'hui que naguère, qu'il y a 5, qu'il y a 10 ans, à faire entendre des voix fragiles, parce que la voix du marketing, la voix des annoncés best-sellers par la publicité fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, sans les libraires, nous, éditeurs, souvent indépendants, qui faisons un vrai travail de création, qui avons sur notre responsabilité des salariés et aussi des écrivains, des auteurs qui ont besoin que leurs livres se vendent pour vivre, qui fait que ce travail-là va être mis à mal ou annihilé.
Donc, pour vous, c'est un lieu de découverte?
C'est un lieu de découverte, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de vie intellectuelle, un lieu de vie affective, c'est un lieu de vie, tout simplement, oui.
On a beaucoup entendu de témoignages de libraires et aussi de témoignages d'employés de librairies qui parfois ne sont pas trop d'accord que les librairies rouvrent pour des raisons notamment sanitaires et ils en profitent pour raconter leur quotidien. C'est un métier dont parfois on a une image faussée parce qu'on peut s'imaginer un libraire passant sa journée à lire alors qu'en fait c'est aussi beaucoup de logistique, c'est de la manutention, etc. Je me demandais, dans votre milieu, l'édition, dans votre métier d'éditrice, est-ce que vous aussi, vous constatez une différence entre ce que les gens peuvent se représenter et la réalité de votre métier ?
Excellente question. Je commence toujours par là quand je reçois quelqu'un qui a envie de faire un stage ou quelqu'un que je pourrais éventuellement embaucher, en leur disant, méfiez-vous du mythe de l'édition. L'édition, de même que la librairie du reste, certes, c'est un métier qui est totalement, dont le cœur nucléaire est la lecture, mais dont le quotidien est fait de tout, je ne vais pas dire sauf de lecture, mais de nombreuses choses qui sont au service de cette lecture. La chaîne du livre est au service d'un créateur, d'un écrivain. Nous sommes tous des passeurs. Vous, en tant que journaliste, vous êtes une passeuse. Les bibliothécaires, les libraires et les éditeurs, bien entendu, sont tous sur cette chaîne qui sert à faire exister un texte. Je veux dire, sans faire de la théorie littéraire, mais de manière très simple, un texte n'existe pas sans le lecteur. Pour trouver un lecteur à un texte, on a besoin d'une grande chaîne, qui est une chaîne industrielle, mais tout en étant industrielle, qui n'oublie jamais son exception culturelle et en même temps à tous ses maillons son aspect artisanal, mais c'est toutefois une grande chaîne de métiers au service d'un écrivain et d'un texte. Alors oui, quand je suis arrivée, moi, stagiaire chez Actes Sud, sans avoir la moindre idée de ce qu'était ce métier, j'étais jeune professeure de lettres classiques, j'avais envie d'aller dans l'édition, mais sans savoir. Et j'ai appris à mes dépens que je n'allais pas passer ma journée à lire et à produire des textes définitifs sur mes lectures, mais que j'allais passer ma journée à transmettre mon enthousiasme. Mais transmettre son enthousiasme pour un stagiaire, c'est être au service d'une maison d'édition, c'est commencer par faire des photocopies. Et mon quotidien aujourd'hui d'éditrice, à la fois éditeur, c'est-à-dire garante du texte, et publisher, chef de maison, c'est quantité de petites choses qui font une journée. Et évidemment, le temps de lecture, c'est tôt le matin, tard le soir, le week-end, et pendant les vacances, parce qu'au bureau il est tout à fait impossible de lire, parce qu'on téléphone, parce qu'on remplit des dossiers, parce que on se préoccupe des écrivains. Moi j'ai aussi un rôle d'animatrice de toute une petite galaxie que j'évoquais tout à l'heure. Donc je me dois d'être disponible pour les écrivains que je publie, et être disponible pour des écrivains, c'est bien évidemment être en mesure de lire dès qu'ils arrivent leur nouveau texte, de savoir où ils en sont, mais aussi de donner éventuellement une adresse de déménageur à une telle qui en a un besoin urgent, foncer chez un ou une autre parce qu'il est désespéré, que son robinet fuit et que il faut donner un coup de main. Donc il y a tout cet aspect-là de vie collective autour d'une maison d'édition qui est vraiment un lieu. Et puis en effet, il y a ce travail quotidien. On envoie des services de presse, il faut les mettre sous pli, il faut aller à la poste. Enfin, il faut rappeler les gens, relancer les journalistes, les libraires, organiser les voyages des auteurs. Là, ça paraît. Je rentre de Suisse avec Diane Meur. d'ailleurs, nous sommes allés au Salon du Livre de Genève. Ce sont des choses qui s'organisent, qui se coordonnent avec les organisateurs des événements. Donc oui, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire autre chose que lire, ça c'est sûr.
On parle souvent de la force d'un livre, c'est une expression que j'entends assez souvent. C'est quoi cette force ?
C'est quoi cette force ? La réponse est dans la question. Enfin, à partir du moment où on en parle, c'est qu'on l'a éprouvé. C'est très intime la force d'un livre. C'est très intime la force d'un livre. Et pour moi, qui pratique un métier alors très collectif dans ses épiphanies quotidiennes, dirais-je, mais très solitaire, mon métier consiste à capter des forces. J'ai toujours en tête une phrase de Deleuze dans son livre sur Francis Bacon, disant « Créer, ce n'est ni imiter, ni inventer, c'est capter des forces. » Et lire, c'est capter des forces aussi. La lecture vous nourrit absolument, me nourrit absolument. Et quand un texte me nourrit au point qu'il a transformé peut-être pas ma vie, même si j'aime ce romantisme, mais en tout cas ma journée et peut-être même ma semaine, j'ai envie de partager.
Quel est le livre qui vous a le plus marqué, ou même qu'est-ce qu'un livre vous a déjà poussé à faire ? Je me demandais si c'était pas justement d'avoir osé créer votre propre maison d'édition.
Alors, je ne sais pas s'il faut en parler en termes d'audace, ça a été un mouvement très très naturel. Vous savez, quand on est salarié dans une maison, c'était mon cas aux éditions Actes Sud, où j'ai été très heureuse pendant 15 ans, il y a toujours un moment où on se dit « j'en ai marre, je vais créer ma propre maison ». Les maisons où on peut être salarié, évidemment, sont des maisons de grande taille, où j'avais le sentiment, moi, que mon énergie se dissolvait au fil des étapes, c'est-à-dire que vous êtes obligé de convaincre votre direction éditoriale, la direction commerciale, le service de presse, que votre livre parmi la myriade de livres qui paraît en même temps est fondamental, essentiel pour reprendre un terme qui nous occupe. Et j'ai fini par me dire que peut-être qu'en publiant moins, en essayant de publier mieux, parce qu'on publie mieux quand on publie 10 livres par an que quand on est responsable de 120 livres par an, ce qui était mon cas chez Actes Sud, c'est-à-dire en ayant vraiment le temps de me pencher sur les différentes versions du texte, en ne déléguant pas cette chose essentielle qui est éditer un livre, donc le rapport intime que cela induit avec l'écrivain, bien, ma foi, je serais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureuse, et que cet enthousiasme que j'éprouve en choisissant un texte, je pourrais le transmettre directement au prescripteur, à savoir au libraire, au journaliste, en passant évidemment par une chaîne de diffusion-distribution industrielle qui a été mon choix dès la création de la maison, puisque quand j'ai créé la maison, j'ai une petite équipe d'auteurs, dont Vincent Borel ou Michel Lèbre, qui sont encore dans mon catalogue, qui m'ont dit « Ah, tu crées une maison ? Bah formidable, on te suit !» Alors, c'était une formidable marque de confiance, mais c'était aussi pour moi un poids écrasant de responsabilité, parce qu'évidemment, je me sentais dans l'obligation qu'ils aient strictement les mêmes possibilités dans ma maison que dans une maison plus grande. Donc avoir la possibilité d'un service de presse, de vente à l'étranger, d'une commercialisation dans la chaîne industrielle du livre en France et à l'étranger, et à l'export évidemment. Donc tous les choix de la maison ont été absolument induits par les textes. Donc j'ai pas tellement eu un sentiment d'audace en créant la maison, mais de liberté, d'indépendance. Et ça me porte toujours. Ça me porte toujours parce que presque 20 ans plus tard, la maison est toujours là et que ça devient de plus en plus difficile. Mais d'une certaine manière, je trouve ça extrêmement intéressant d'arriver, grâce à des pouvoirs publics qui nous soutiennent quand même beaucoup, donc grâce à une loi sur le prix unique du livre, qui est une loi sur l'égalité des chances, d'arriver à faire la preuve quand même au quotidien qu'un livre de Diane Meur, un livre de Dima Abdallah, un livre de Claire Keegan, puisque je parle de l'actualité stricte, vont pouvoir exister sur les tables des libraires au même titre qu'un livre publié par un des trois, maintenant ils sont de moins en moins nombreux, grands groupes d'édition sur la scène française. Donc, moi, j'aime bien les défis. Enfin, j'ai commencé ma carrière en enseignant les lettres classiques, je vous l'ai dit. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un peu un dinosaure à la traîne d'un monde qui va trop vite pour moi. Mais j'essaie quand même d'y jouer ma partition. Et ma foi, jusqu'ici, comme dit le type qui s'est précipité du 100e étage et qui n'est qu'au 50e, tout va bien.
J'allais justement vous demander quel sentiment ça vous procure d'être à la tête de votre maison d'édition, mais vous avez déjà un petit peu répondu.
Ben, un sentiment de responsabilité, un sentiment d'autonomie, en tout cas de liberté. Et ça, je n'y renoncerai pour rien au monde. C'est-à-dire que oui, il y a des choses lourdes à porter, particulièrement dans les moments de grandes difficultés économiques. Par exemple, en ce moment, c'est compliqué, c'est angoissant de se dire que la péréquation va continuer à fonctionner parce que moi, j'ai toujours voulu inscrire ce catalogue dans le temps et j'ai toujours refusé que le compte d'exploitation prévisionnel à l'équilibre pour chaque titre, ce qui est demandé à mes jeunes consoeurs et frères qui sont salariés dans des maisons d'édition. Et c'est impossible parce qu'évidemment, ça vous oblige à publier des livres dont vous pensez qu'ils sont plus faciles et qu'ils rencontreront plus facilement leur public. Je me suis toujours refusée de jouer le jeu du marché dans cette maison, qui est une maison strictement d'offres. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui, sans le dire du reste, hein, continuant de dire qu'elles font un travail de création, se préoccupent évidemment d'un supposé désir du lectorat. Mais il reste possible de vraiment ne pas considérer les lecteurs comme des imbéciles. Ce qui est quand même, entre la création de ma propre maison et le moment où j'ai quitté Actes Sud, j'ai travaillé pendant 11 mois à diriger la collection Librio, qui est vraiment l'édition commerciale dans tout son accomplissement. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est de l'offre et de la demande et c'est vraiment le règne du marketing. Mais le marketing, et ça je l'ai appris là-bas, a une certaine tendance à prendre le plus petit commun dénominateur du goût du lecteur. Or, quand je vais en librairie, ce qui m'arrive très régulièrement pour accompagner des auteurs, pour parler de ma maison, je rencontre des lecteurs curieux, avides, qui font le pari de l'intelligence. Or, ce pari de l'intelligence, il faut qu'on soit encore quelques-uns à pouvoir le faire, et donc quelques-uns à pouvoir échapper aux règles de la concentration, du marketing d'une supposée standardisation des biens culturels. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est de faire le pari de l'intelligence et le pari de la sensibilité. Donc, de publier des livres qui me transportent, alors c'est très mégalomaniaque de dire qu'ils transporteront d'autres, mais si je ne suis pas convaincue moi-même, je ne sais pas qui le sera.